Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes dans le pire cauchemar de tous les Français. Nous avançons dans le hall du bureau. À peine arrivés, les gloussements se font entendre. Les collègues se pincent, des rires démoniaques résonnent. Alors pourquoi tous ces regards ? Nous réalisons que nous sommes venus travailler tout nus, sans bouclier social, et quelle humiliation ! Ce rêve, c'est la pire hantise de tous les Français, et cela interroge : pourquoi avons-nous si peur de notre nudité ? Le philosophe Jacques Derrida raconte un jour avoir croisé son chat à poil et ressenti de la honte, et même la honte d'avoir honte. À une époque où l'intime se dévoile sans pudeur sur les écrans de nos téléphones, le corps nu, dans sa plus simple expression, continue de choquer, d'être censuré sur les réseaux sociaux. Comment expliquer cette pudeur ? Sommes-nous devenus puritains au point de ne plus faire de topless cet été ? Faut-il réapprendre à vivre nu pour être ensemble ? On en débat jusqu'à 13h sur France Inter.
Paola Puerari. Le débat de midi sur France Inter.
Et pour ce débat sur le tabou de notre plus simple appareil, j'accueille dans ce studio une philosophe. Bonjour Margot Casson.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un essai paru chez Grasset, Vivre nu où vous déshabillez les clichés sur le naturisme, convoquant vos souvenirs d'enfance déshabillés dans des clubs de vacances naturistes. Bonjour également à une autre militante du corps libre. Bonjour Amal Tahir.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, activiste féministe, très présente sur les réseaux sociaux. À cette table également Eric Fiat, qui a signé un remarquable essai chez Plon. Éloge de la pudeur. Bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Fontanelle, journaliste pour Elle. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous.
Journaliste à l'Obs.
Vous êtes journaliste à l'Obs, pardon, avec nous depuis la Normandie. Vous êtes l'auteur de Capital Douceur aux éditions Segers, dans lequel vous racontez votre expérience du naturisme sur l'île du Levant à la conquête de votre nudité. Pardon pour Elle, c'est vrai que vous avez passé des années dans ce magazine. Et si vous aussi, vous vous sentez libre, tout nu, au contraire que vous êtes bien en textile, eh bien, chers auditeurs, participez sur l'application France Inter, enregistrez vos témoignages et s'il vous plaît, n'attendez pas la fin de l'émission. Margot Casson, vous ouvrez votre livre avec un sein nu, celui du symbole de la France Marianne, et vous dites qu'il porte tout le paradoxe de la société française.
Oui, le paradoxe de la société française, c'est qu'on a du mal à trouver une troisième voie entre l'hypersexualisation des corps et une forme de pudibonderie. Et en fait, on fait cette distinction, on force l'abîme entre pudibonderie et hypersexualisation, alors que je pense qu'au contraire, ce sont deux faces d'une même pièce, parce qu'il faut avoir une forme d'obsession pour la sexualité et mettre de la sexualité partout dans le corps pour être un puritain.
On avait dit que Marianne, à un moment donné, c'était le symbole de la femme libre, que son sein allait nourrir la France. Ça, pour vous, c'était le symbole de la France ?
Ben justement, c'est bien la preuve que quand les femmes sont un symbole, on arrive à les mettre nues, mais quand elles sont juste des femmes en chair et en os, on a du mal à les imaginer nues, ce qui pose problème.
Oui, parce qu'on se souvient qu'en 2020, eh bien, des gendarmes avaient demandé à une femme qui bronzait nue dans un parc, en tout cas les seins nus, de se rhabiller parce que c'était de l'exhibition sexuelle.
Oui, mais ce qui pose question, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, dans l'histoire de l'art, quand on voit une femme nue, on imagine la muse, la déesse, qu'on l'associe la nudité à une forme d'absolu, et que quand c'est juste une femme sur la plage, là, tout de suite, c'est curieux, suspect, ambigu, forcément avec une intention sexuelle. C'est cette même différence entre le symbole de Marianne et la vraie femme qu'il y a entre la femme de l'histoire de l'art et puis la femme de la vie de tous les jours.
Éric Fiat, comment est-ce que vous expliquez cette ambivalence aujourd'hui de la société française ?
Alors je crois en effet, comme Margot, que notre époque est très ambivalente. Elle est à la fois très puritaine et très obscène. Très puritaine en ceci qu'elle veut parfois cacher ce que l'on pourrait montrer, mais très obscène parce qu'elle veut parfois montrer ce que l'on pourrait cacher. Je crois, comme Margot, qu'il y a une solidarité entre ces deux choses qu'on pourrait croire a priori très opposées, le puritanisme et l'obscénité. Il me semble que dans les deux cas, il y a quelque chose comme un refus du désir. Il me semble en effet que ce qui est commun aux puritains et aux obscènes, c'est qu'ils n'aiment pas le désir. Alors le puritain, bien sûr, n'aime pas le désir, mais l'obscène aussi, parce que je crois que le désir a besoin de pudeur, de mystère, d'ombre. Peut-être que le désir, en effet, doit être distingué de la pulsion, en ceci que la pulsion veut se réaliser tout de suite, alors que le désir aime bien l'attente. Par conséquent, un corps qui n'est ni complètement montré, le corps obscène, ni complètement caché, un corps puritain, est peut-être le plus désirable des corps. Le désir, vous parliez de Derrida tout à l'heure, le désir c'est l'attente de ce qui n'attend pas. C'est du lourd, hein, midi sur France Inter, il faut peut-être expliquer un peu cette formule.
Allez-y.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on désire un corps, à la fois on ne peut pas attendre, il nous le faut, et en même temps on est très heureux de l'attendre. Paul Valéry a écrit sur le désir un poème magnifique qui montre que l'on a besoin de l'attente, du mystère pour désirer. C'est un poème sur le baiser. « Si tu prépares à l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas ce geste tendre. Plaisir d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Là aussi, c'est du lourd comme poésie, mais ça veut dire que attendre le moment où l'autre va se mettre nu, c'est quelque chose d'absolument délicieux. Et ça, on ne l'a pas si on est puritain, parce qu'on n'est jamais nu. Et on ne l'a pas si on est obscène, parce qu'on est tout de suite nu.
Alors, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des corps nus dénués de désir à l'époque? Par exemple, dans les années 68, il y a eu la révolution sexuelle. Et Sophie Fontanelle, eh bien, vous racontez que c'est un moment donné où les femmes se sont un peu libérées et il leur arrivait très souvent de se mettre topless sur la plage, les seins nus.
Ben moi, j'appartiens, moi je suis née en 1962, donc j'appartiens à une génération, hein, tout le monde, toutes les femmes qui sont nées dans ces années-là vont se reconnaître, où on n'achetait même pas de haut de maillot. On allait dans des paniers où on prenait que le bas du maillot et on vivait seins nus. Les seins poussaient sans ce moment où on se dit, je vais cacher, en fait. On était comme ça jusqu'à avoir pour celles qui avaient de la poitrine, vraiment des grosses pommes. Et il y avait pas de souci. Je me souviens de mes parents me demandant quand même à table de peut-être mettre quelque chose, parce que moi, j'allais carrément déjeuner seins nus, hein. C'était sur la Côte d'Azur. J'ai vécu. Alors, est-ce que il y avait à la fois, une notion de désir, parce que j'étais très contente de ce qui se passait avec mon anatomie, et à la fois il y avait les deux, il y avait aussi ce qui après a été très important dans ma vie, c'est-à-dire juste la liberté d'être nu sans justement se soucier du désir.
C'est-à-dire liberté, égalité, nudité. Mais alors on a des chiffres et aujourd'hui, eh bien, il y a de moins en moins de Françaises qui se mettent les seins nus. Elles étaient 16% en 2021 contre 43% en 1984. Comment est-ce que vous expliquez que les Françaises se rhabillent ?
Mais c'est quelque chose de mécanique. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée sur la plage des Catalans à Marseille. Bon, seins nus, puisque je sais pas, il y a 5 ans de ça, j'étais seins nus, puisque j'avais pas de haut de maillot, en fait. Donc, j'ai tout de suite vu que ça allait pas, j'ai mis mon débardeur, parce qu'en fait, il y avait des regards. Alors, les regards n'étaient pas agressifs, je dois dire. Ils étaient juste interloqués. Et je voyais bien que personne n'était habitué. En fait, vous savez, tout ça, c'est des histoires de référents et d'habitudes. Si vous n'êtes pas habitué à voir des gens qui vont se baigner seins nus en sentant que c'est tout à fait naturel, bah ça vous paraît complètement. Les gens étaient ahuris, en fait. Et j'ai pas envie de dire par respect, parce que ça me gêne de dire ça, parce que moi, je trouve que c'est pas irrespectueux d'être seins nus. Mais disons pour pas mettre cette plage, pour pas susciter trop de conversations, j'ai mis un débardeur, mais j'ai trouvé que c'était triste d'avoir à le faire. D'autant qu'à l'endroit à côté, après, il y a un endroit privé qui s'appelle le cercle des nageurs. Là, vous pouvez être seins nus sans problème, parce que cette culture existe encore là-bas.
C'est vrai qu'on voit bien que dans la société, il y a un peu deux poids, deux pudeurs. Alors, Amal Tahir, aujourd'hui, dans la société, eh bien, tous les hommes et toutes les femmes, d'ailleurs aussi, ont un téléphone portable. L'image des femmes peut être rapidement capturée. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui font qu'aujourd'hui, on se couvre un peu plus, qu'on ait moins d'insouciance?
Alors, je pense qu'il est important de partir du schéma corporel et de se rendre compte que, en effet, il y a aussi une montée des réseaux sociaux. Il y a bien sûr la notion que vous vous dites d'être prise en photo, d'être, comme on dit, affichée, donc que tout le monde puisse nous voir. Mais il y a aussi cette comparaison de son corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'aujourd'hui on aborde de plus en plus la confiance en soi, les corps sont différents, il reste quand même la montée des réseaux sociaux et de cette perfection inatteignable. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus aussi des personnes qui voient le maillot de bain comme un vrai challenge. Donc aussi, il y a cette peur de se dire, je vais me mettre nue et je vais être jugée aujourd'hui. Je pense que il y a quelques années, il y avait peut-être moins aussi ce jugement-là. On le voit aussi dans l'art, dans l'histoire. Les femmes étaient rondes, pulpeuses, elles avaient du ventre, des seins, les seins qui tombaient, et ça posait pas problème. C'était artistique, c'était une mélodie. En fait, finalement, ce corps racontait une histoire. Alors qu'aujourd'hui, on ne raconte plus d'histoire vraiment avec nos corps, mais est-ce qu'on est assez bien ou pas. C'est plutôt ça aussi.
Il y a un genre de diktat, en fait.
Exactement, oui. Je pense que, en effet, ça joue énormément.
Et alors là, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle application qui s'appelle Safer. En gros, quand une femme se fait harceler en maillot de bain sur la plage, elle peut cliquer sur un bouton d'appel et un garde-plage vient la secourir. C'est nécessaire, ce genre d'application, aujourd'hui ?
C'est dommage. Je veux dire, c'est assez fort et c'est vrai qu'il y a de l'harcèlement, mais pas que sur les plages. Il y a de l'harcèlement partout, mais c'est nécessaire, oui et non. C'est-à-dire que c'est dommage de devoir les créer, en fait, de se dire qu'on est harcelé sur la plage. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même un endroit où on est assez flexible. On se dit, bon, t'es pas en maillot de bain. Enfin, on a l'impression un peu que la plage, c'est vraiment le moment de folie de tout le monde, de se dire, oh, ben, je suis en maillot de bain, voilà. On voit mes fesses, on voit mes cuisses, c'est pas grave. Mais d'un côté, il y a aussi un harcèlement, enfin, plutôt de l'harcèlement sexuel, en fait, de se faire draguer, mais très insistement, de se faire suivre, de pas pouvoir se baigner tranquille. C'est dommage. Donc, je comprends que ces applications existent. Et elles existent dans la rue aussi aujourd'hui. Il y a plein d'applications qui existent pour sa sécurité dans la rue en tant que femme. Donc, oui, elles sont nécessaires, malheureusement, tant que les femmes ne pourront pas être tranquilles quand elles sont à poil.
Margot Cassan, comment est-ce que vous lisez justement le fait que la jeunesse garde son haut de maillot ?
Mais ce qui me frappe dans vos deux témoignages, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est pas la nudité qui pose problème, c'est le regard des autres sur la nudité. C'est toujours quand vient la question de l'altérité que d'un coup vient la honte. Mais d'ailleurs, depuis Adam et Ève, c'est la même chose. C'est qu'on envisage la nudité pas comme une forme stable, mais comme une privation de quelque chose. D'un coup, on vous arrache quelque chose. Donc, vous pouvez pas vivre votre nudité sereinement.
Et je pense aussi que par rapport à ce que tu dis...
Amal Tahir.
Oui, pardon.
Allez-y, je dis aussi, juste votre nom.
Il y a aussi ce côté où j'ai l'impression que ça nous donne un statut un petit peu social de se dire, est-ce que je fais partie des gens qui se mettent nus? Donc, est-ce que je suis accessible? Il y a aussi cette chose dans nos relations, vraiment nos relations amoureuses, intimes, de cette, est-ce qu'on est accessible quand on se met nu tranquillement en maillot de bain? La société veut que du coup automatiquement on est à l'aise avec nos corps, on est des filles accessibles, on est facile, etc. Alors qu'en fait ça veut rien dire sur nos émotions vraiment. Enfin, ça veut juste dire qu'on travaille sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre besoin d'être nu. Et moi j'ai aussi l'impression que c'est vraiment une place, enfin vraiment un statut en fait. Se dire aujourd'hui je me mets topless. Moi je suis une grande fan du topless, mais ça veut vraiment dire, et voilà, j'ai pas du tout une petite poitrine, donc ça suscite pas les mêmes réactions que des copines à moi qui ont plus une petite poitrine par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un statut d'affirmation de soi aujourd'hui, de se dire bon ben voilà, je me mets topless, j'aime pas avoir mon haut de bikini. J'ai l'impression que ça joue même sur les même sur la séduction, de se dire ok, si cette personne me drague, elle va se dire que je suis facile si j'enlève mon... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un statut aussi intime qui se met en place.
Oui, mais c'est drôle qu'on ait besoin à ce point d'être validé encore une fois par le regard des autres. Je pense que, enfin, moi, ce que je défends, c'est le naturisme, parce que précisément, c'est un corps pour soi, c'est une nudité pour soi, qui a pas besoin du regard des autres pour considérer qu'on est valide ou pas valide. C'est le drame, je pense, du summer body, c'est que le summer body, c'est pas un corps pour vous, c'est un corps pour les autres. Et quand ce corps, il se fait au prix d'un sacrifice financier, physique, moral, c'est pas un corps valable.
Éric Fiat.
Je suis d'accord et pas d'accord avec vous, Margot. Je suis d'accord avec vous pour dire que le regard objectivant, le regard jugeant, le regard obscène est un regard qui peut faire beaucoup de mal aux êtres humains. Je veux dire par là que pour moi, être nu, c'est jamais forcément totalement facile. Un autre philosophe, Emmanuel Lévinas, pense que la dénudation, c'est l'exposition à la blessure, à l'outrage, à la profanation. Il y a toujours la nudité à la fragilité, à la vulnérabilité, à la faiblesse, à la misère. Vous semblez dire qu'on peut dépasser cela. Moi, je crois que l'être humain ne sera jamais nu comme un ver, même s'il est nu comme un ver. Parce que quand nous sommes nus comme des vers, c'est parce que nous nous sommes déshabillés. Et se déshabiller, c'est toujours quelque chose comme la possibilité d'une émotion, c'est la vulnérabilité d'une présence. Ce que je ne montrais pas, mon sexe, mes fesses, je ne sais, vos seins, eh bien tout à coup est montré. Et dans ce qui se montre là, il y a quelque chose d'un petit peu fragile, émouvant. Et c'est là en effet que j'ai peur d'un regard jugeant, objectivant, et que j'espère ce que j'appellerais un regard pudique. Ce que j'appelle le regard pudique, c'est le regard ombrant, le regard courbé, le regard qui jette sur la nudité de l'autre ce que j'appellerais un voile de fin silence, une ombre de délicatesse, pour empêcher que ce qui a été dévoilé précisément devienne obscène. Donc pour moi, ce jeu entre un corps un peu fragile et un regard qui respecte cette fragilité est quelque chose qu'on ne peut jamais dépasser complètement. Même si, comme mes deux amis, je suis d'accord pour dire que l'assomption d'un corps nu comme un corps totalement assumable et qui peut se montrer nu, c'est l'objectif. Mais peut-on assumer sa nudité si on n'a pas l'aide de ce regard pudique, de ce regard respectueux, de ce regard, comment dirais-je, qui passe du regard à l'égard.
Mais là,
du
regard à l'égard. Ce que vous dites, c'est que c'est pas tout à fait naturel d'être nu, entre guillemets, et qu'en plus, dans ce regard, il y aurait par exemple un biais, mais on peut aussi se regarder dans les yeux et complètement oublier le fait qu'on est nu, Margot Casson.
Oui, surtout, je comprends ce que vous dites, mais derrière ce discours, il y a l'idée que la nudité, c'est une forme de vérité sur vous-même, qu'à partir du moment, quand vous parlez de la vulnérabilité, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes nu face à quelqu'un, vous révélez quelque chose de vous-même. Et ça, je crois pas du tout, et c'est pour ça que je place pas du tout le curseur de la pudeur à l'endroit de la nudité, parce que je pense qu'un discours sur soi peut être beaucoup plus impudique que la nudité, et que la nudité franche ne dévoile rien. Au contraire, il y a presque un mystère, parce que vous devenez un anonyme, vous êtes un Cicéro qui dit « le corps nu, c'est le passant dans la nature », mais il y a quelque chose qui vous singularise en fait beaucoup moins que la parole, par exemple.
Alors avant de continuer à parler de la nudité, je voudrais qu'on s'attarde quelques secondes sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où il y a vraiment deux mondes sur les réseaux sociaux. Il y a la pornographie complètement gratuite, et puis il y a toutes ces images qu'on montre de nous en train de déjeuner sur la plage, mais jamais les seins nus. Et Amal Tahir, par exemple, vous qui postez beaucoup de photos de vous en maillot de bain, de vos formes, en lingerie, etc., qui vous dévoilez sur les réseaux sociaux, vous avez toujours les mains sur les tétons. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, j'ai toujours mes mains sur mes tétons parce que, en fait, Instagram interdit, du coup, sauf dans le cas de l'allaitement, donc c'est assez parlant. Donc, interdit le fait qu'on puisse poster des photos de nos tétons mais les tétons masculins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, la photo saute, donc elle est supprimée de la plateforme s'il y a un téton féminin qui n'a pas pour but l'allaitement maternel. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours...
Y compris de, par exemple, tableau de maître comme de Vénus, de nu de Modigliani. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on censure plus la nudité que la violence sur les réseaux sociaux.
Exactement, exactement. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver des vidéos très choquantes, très, très violentes. On va pouvoir partager des propos extrêmement haineux, extrêmement violents à l'encontre de quelqu'un, une communauté. Mais par contre, les tétons féminins restent choquants pour Instagram.
Sophie Fontanelle, comment est-ce que vous analysez en tant que journaliste cette censure de la nudité sur les réseaux sociaux ?
Alors, déjà en premier, Instagram a une politique de... c'est dans les statuts d'Instagram que si c'est une œuvre d'art, ils ne le censurent pas. J'en ai fait expérience il y a pas longtemps puisque j'ai passé une œuvre de John De Andrea qui est un homme qui faisait des sculptures hyper réalistes. Alors vraiment, Instagram peut se tromper, peut vraiment penser que c'est une photo alors que c'est une sculpture. Mais il y avait les hashtags avec le nom de l'artiste, ça n'est pas censuré. Donc normalement, sauf si on a une mauvaise surprise, si vous passez une sculpture grecque, vous n'êtes pas censuré par Instagram.
Oui, peut-être. Alors, je referai le test parce que j'avais le souvenir justement qu'il y avait énormément de nus de Modigliani qui avaient été censurés.
Mais parce qu'en fait, c'est tout vient de la lecture de l'algorithme et de comment est-ce qu'il, parce qu'il peut se tromper sur ce qu'il voit, sur ce qu'il croit voir. Mais en tout cas, la politique, ça je sais sûr parce que je suis allée à un séminaire d'Instagram là-dessus. La politique d'Instagram, c'est de que l'œuvre d'art peut. Alors évidemment, une œuvre d'art, vous savez, c'est une photo d'Helmut Newton. Il est un peu paumé l'Instagram, il y a ça, c'est... Alors, ensuite, les réseaux sociaux ont cette politique, je pense, parce que il y a je la désapprouve, cette politique de qu'on puisse pas montrer ses tétons, ça m'énerve, moi aussi. Mais je crois que ça vient du fait que nous ne nous en rendons pas compte parce que nous vivons selon des algorithmes et donc on se voit proposer des choses qui nous sont familières et que l'on aime beaucoup. Mais si, par exemple, moi, ce que j'aimais, c'était les images un petit peu plus, on va dire, érotiques, je vais même pas jusqu'à pornographique, à un moment donné je me rendrai compte que les réseaux sociaux ont aussi tout un aspect beaucoup plus érotique, et je pense que Instagram a voulu lutter contre l'invasion d'images pornographiques et de commercialisation du corps. Et même, on le sait tous, même si on ne les suit pas, on en reçoit quand même, on reçoit des invitations pour y aller. Donc je pense que ça vient de là. Et ce que je trouve terrible et tellement triste, c'est que du coup, on en revient encore à mélanger, à opposer, à amalgamer la nudité à la pornographie.
Et ce qui est drôle, c'est que vous parliez de cette exposition du sculpteur John De Andrea, donc qui fait des sculptures de corps nus, et vous racontez que vous vous êtes auto-censuré, vous, en postant des photos sur Instagram. C'est-à-dire que vous aviez en tête déjà qu'on ne pouvait pas tellement montrer de nus.
La confusion entre un corps de John De Andrea, si les gens ont la curiosité d'aller voir sur Internet, un corps de sculpté par lui est exactement comme un corps, une photo d'un corps nu. Il y a tout, il y a les poils, il y a les pores de la peau, il y a tout. C'est pour ça qu'il est si célèbre. Donc la confusion est telle que moi j'ai plus de 300 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Quand j'ai posté, j'ai tourné autour de la sculpture sans m'attarder, vous voyez, sur le pubis, parce que je savais que c'est l'algorithme idiot allait se dire c'est un vrai corps, en fait. Alors qu'en fait, s'il analyse que c'est une sculpture, il le laisse passer. Et après, j'ai reposté une seconde fois en mettant le hashtag, le nom de la galerie, tout ça. Donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est passé. C'est très subtil. Mais ce que je voudrais dire, puisque tout à l'heure j'entendais parler de cette histoire de nudité et de savoir si c'était naturel ou pas naturel, c'est parce que ça touche aussi aux réseaux sociaux, c'est que moi je pense que Margot, elle va être d'accord avec moi, mais je pense que c'est complètement naturel d'être nue.
Et justement, on va continuer ce débat, ouais. Justement, puisqu'on va se demander si pour vivre ensemble, il ne faut pas réapprendre à vivre nu, ou est-ce que c'est une illusion naïve. Et on va partir pour l'île du Levant, capitale de la douceur, pour déshabiller les clichés sur le naturisme, en écoutant David Walters, Soul Tropical.
Trop de cool.
Le débat du midi sur France Inter.
On est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter pour se demander pourquoi nous sommes si mal à l'aise avec notre nudité à ma table. Deux femmes qui pratiquent le naturisme, la philosophe Margot Cassan et la journaliste Sophie Fontanelle. Éric Fiat, qui n'est pas encore un adepte de l'île du Levant et qui signe un éloge de la pudeur, et la militante activiste Amal Tahir. Et nous avons reçu énormément de réactions d'auditeurs. D'abord Pierre qui nous dit « Mes garçons me racontent que la pudeur va jusque dans les vestiaires du sport où la jeune génération prend maintenant sa douche en gardant son caleçon. » Et David qui nous dit, pour alimenter le débat, je voudrais partager cette citation du philosophe André Comte-Sponville qui écrit que la nudité est comme le soleil, on ne peut pas la regarder en face, on va en débattre justement. Mais nous avons aussi reçu une note vocale de Jacques Frimont, vice-président de l'APNEL, l'association pour la promotion du naturisme en liberté.
Vivre nu, ça fait du bien à l'individu, à la société et à la nature qui nous entoure. Raisonnablement, ce tabou de la nudité ne tient pas debout. Il suffirait d'une décision politique courageuse et la simple nudité paraîtrait aussi banale qu'elle l'est pour nous naturistes.
Margot Cassan, vous qui avez passé tous vos étés enfants chez vos oncles et vos tantes dans un village naturiste au pied du Mont Ventoux, sans culotte au gré au vent, est-ce que vous croyez que la nudité peut vraiment être banale comme ça ?
La question de la naturalité de la nudité, c'est une vaste question, mais comme la question même de la naturalité de la nature elle-même, qui est l'environnement, je pense qu'il y a deux choses qui font que le naturisme est naturisme. Il y a le fait de vivre en communauté et le fait de vivre dans un...
Vous dites que c'est un mode
naturel, dit naturel. Et oui, c'est un mode de vie, puisqu'à l'origine, c'est même une pratique médicale qui vient des premières médecines alternatives qui disaient que pour soigner la tuberculose et la variole, il fallait exposer son corps nu au soleil et dans des bains d'eau froide. Et le naturisme est né de la rencontre entre ces médecins-là et des communautés anarchistes. Mais avec l'idée que derrière la nudité, la vertu principale, c'est effectivement le confort de se baigner nu, des choses qu'on peut imaginer. Un caractère sanitaire que je viens d'évoquer, et puis aussi un caractère politique très important.
Égalitaire.
Égalitaire, d'égalité, et beaucoup plus que de liberté, justement. Égalité des corps, égalité des genres, égalité entre les classes sociales, égalité entre les générations aussi, une forme Le vêtement fait en fait une forme d'armure entre, à la fois entre vous et la nature et entre vous et les autres. Vous ne communiquez pas avec quelqu'un qui a 50 ans quand vous en avez 12 parce que vous n'êtes pas habillé de la même manière. Quand vous êtes ouvrier, vous ne communiquez pas avec le chef de l'usine pour une question de vêtements. Et
Mais ça suffit vraiment, juste en faisant tomber la veste comme ça, on ne voit plus les différences entre un ouvrier et un chef d'entreprise ?
Non, évidemment que le corps est marqué, mais le naturisme, comme n'importe quelle utopie, propose un horizon. Et le but, c'est de s'en approcher.
Sophie Fontanelle, vous avez testé cette aventure, si je puis dire, il y a 3 ans, en gagnant l'île du Levant, une île au large de Hyères. Comment est-ce que ça vous est venu d'aller sur cette île ?
Je connaissais quelqu'un là-bas. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que... Je savais à ce qui m'est arrivé. Je savais qu'on était nus là-bas, mais je ne savais pas si c'était partout. Et en fait, dès l'instant où j'ai retiré mes vêtements, c'est drôle parce que je me suis sentie à la fois, effectivement, désarmée. Surtout que c'est une île où on teste des missiles. Donc, c'est une île militaire. Mais aussi, je ne me suis jamais sentie... Je pensais qu'il ne pouvait rien m'arriver de mal, en fait. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un endroit naturiste, les gens se regardent, ça c'est sûr, mais vous n'allez pas vous mettre à juger l'autre, parce que sinon on va vous juger vous. Voyez, donc il y a une symétrie merveilleuse, je trouve, et un calme et une paix dans ces rochers de l'île du Levant, c'est assez extraordinaire.
Éric Fiat, ça vous tente alors comme expérience, parce que en parler, moi-même j'ai envie d'y aller.
Non, moi, point du tout.
Pourquoi alors ?
Je vais vous dire. Non, je suis toute... Non, d'abord, c'est
L'île du Levant, c'est au large de Hyères.
Et ça me donne très envie d'aller tout seul, me mettre tout nu sur l'île du Levant.
Ou alors vous avez peur du regard des autres,
avec
alors
une amoureuse. Mais notre petit désaccord vient du fait que, en effet, je crois que la nudité n'est jamais banale chez l'être humain. Je crois qu'il n'est pas naturel d'être nu pour l'être humain, puisque l'être humain n'est pas qu'un être de nature, il est aussi un être d'esprit. À partir du moment où nous avons pris conscience de notre propre corps, on appelle ça le stade du miroir, hein. À partir du moment où nous avons pris conscience de notre propre corps, ce qui n'est pas le cas du ver de terre, eh bien, nous nous interrogeons sur ce corps. Et ce corps pourrait être peut-être pour nous, à ce moment-là, l'objet de fierté ou l'objet de gêne. Il y a quelque chose dans notre nudité, aussi dans le fait que nous soyons des bêtes urinantes, excrécrantes, quelque chose qui n'est jamais totalement assumable. Et voilà pourquoi je fais en effet l'éloge de la pudeur. Être nu dans la nature, avoir tous les plaisirs de la sensation, se baigner nu et avoir peut-être peur qu'un poisson n'alla là où vous voudrez pas qu'il alla, enfin bon, c'est quelque chose de merveilleux, ça je suis tout prêt à le faire tout seul. Mais il me semble que...
C'est l'expérience collective qui
vous
dérange.
Cette idée d'une neutralisation possible du regard de l'autre me
paraît... Vous n'y croyez pas.
Je n'y crois pas. Ça me paraît justement relever de ce que Margot appelait une utopie. Et les utopies sont à la fois des choses merveilleuses et dangereuses. Parce qu'il me semble que le naturisme se met tout nu, pourquoi pas, mais pas n'importe quand, pas devant n'importe qui, pas à n'importe quel moment. Je veux dire par là que nous avons tous, je crois, le droit de pouvoir choisir ce que nous voilons, ce que nous dévoilons, pouvoir réinventer quelque chose comme de l'intime au cœur de l'extime, du caché au cœur du montré. Et voilà pourquoi, par exemple, Margot, le mot « quand » quand on est anarchiste, ça vous gêne pas un petit peu ?
Ah, le camp de naturiste.
Le camp de naturiste. Alors moi, je suis tellement anarchiste que je veux bien être nu, mais tout seul ou avec mon amoureuse. Mais
vous l'idée de m'enrôler dans une communauté de naturistes, ça non. Dans des villages naturistes, et de la hiérarchie et des institutions. Donc au contraire, je trouve que ça se prête très bien à l'anarchisme.
D'accord.
L'anarchisme, c'est une utopie très dangereuse, vous savez.
Bon, Amal Tahir, alors, est-ce que vous pensez vraiment que débarrassés du vêtement, les corps peuvent être à égalité ? Alors, est-ce que c'est votre intuition ?
Dans la société actuelle, je ne pense pas, parce que, en effet, on est encore dans une société qui juge les corps, et ça, c'est une réalité, qu'on soit pour ou contre. Nos corps sont pas sans examen, en fait, c'est normal. Moi, je suis une femme ronde, grosse, voilà, peu importe, et je ne fais pas face au même regard que d'autres copines à moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des normes sociétales. Donc, peu importe qu'on soit habillé nu, même si on était tous nus, il y aurait toujours ce jugement du corps. Peut-être moins justement on est dans un cercle naturiste où voilà le corps n'est plus dans le jugement, etc. Mais dans tous les cas, si demain on se disait bon, on va être tous nus, je suis certaine qu'il y aurait toujours ce jugement là. Ça serait peut-être une porte au jugement, parce qu'on n'en est pas tous égaux, je pense, dans le regard.
Est-ce que vous trouvez pas que c'est aussi beaucoup l'industrie de la mode qui discrimine?
Oui, bien
la
sûr.
La façon dont les patrons sont dessinés, qui font bien qu'il y a sûr. Des corps qui sont plus ou moins acceptables. Ah,
bien sûr. Et même dans la pornographie, par exemple. Enfin, tout est rythmé par une norme, par une mode de corps. Donc, dans la pornographie, on va retrouver toujours certains types de corps. Et voilà. Dans les vêtements, comme vous le dites très bien, il y a des certains vêtements, ça s'arrête à une certaine taille, alors que la taille la plus vendue en France, c'est le 42 quand même. Et du coup, il y a plein de fermetures au corps. Corps différents, corps ronds, corps gros.
Et justement, on vient de recevoir une note vocale d'une auditrice qui s'est enregistrée sur l'application France Inter, qui voulait réagir en direct à ce débat.
Bonjour, je m'appelle Clémentine. J'avais envie de participer au témoignage en expliquant que depuis 3 ans, je vais sur des plages naturistes et depuis lors, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai accepté qui j'étais. Peu importe les formes qu'on a, c'est très libérateur.
Sophie Fontanelle, justement, vous qui avez fait cette expérience, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que vraiment c'est la réalité ?
C'est les deux. Vous prononcez le mot expérience. Et c'est ce que tout à l'heure, j'entendais des propos de un petit peu frileux et un peu peureux sur le fait de se mettre nu, mais c'est quelque chose dont on fait l'expérience. Et si on n'a pas envie de la faire, cette expérience, on la fait pas. Et quand on la fait, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que beaucoup d'idées qu'on a sur le fait d'être nu s'évaporent, en fait, à partir du moment où on est nu. Parce que on oublie assez vite qu'on est nu, à dire vrai. Donc, oui, c'est une expérience. Et puis, évidemment, c'est une utopie. Et je trouve ce mot très beau, puisqu'on est envahi par la dystopie et les choses dramatiques. Oui, c'est un rêve. Et je le trouve assez beau.
Margot Cassan, vous racontez que nu, les rapports entre les hommes et les femmes tombent. Vous écrivez « L'absence de vêtements chagrine l'érotisme ». Est-ce que vous voyez vraiment ce renversement, cette égalité des rapports hommes-femmes ?
Oui, je pense que tous les rapports de domination sont un peu heurtés face au naturisme et l'expérience des relations hommes-femmes se trouve apaisée par le fait que l'homme, dans sa nudité, n'ayant plus le vêtement pour faire autorité, se retrouve dans une situation de vulnérabilité très impressionnante et qui fait qu'il partage pour la première fois l'expérience des femmes dans l'espace public. Parce qu'un homme qui bande mou, qui a le ventre bedonnant et qui se promène sur une plage, il peut difficilement incarner le patriarcat.
Éric Fiat, la réponse au patriarcat, si je puis dire.
Ah ben ça, j'en suis très très heureux. Je ne pense pas que le désir vous forcément à la domination. Je distinguais au début de notre petite discussion entre la pulsion et le désir. En effet, le mâle qui a une pulsion ne supporte pas l'attente et est en puissance un dominant violent. Mais quelqu'un qui n'a pas une pulsion, mais un désir, c'est quelqu'un qui est prêt à attendre, c'est quelqu'un qui passe du regard à l'égard, à la considération, à l'estime. Et moi, je...
Mais vous ne croyez pas que si effectivement les hommes et les femmes étaient nus, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de décolleté, de jupe courte, etc., effectivement les rapports seraient plus apaisés puisqu'on voit tout, on n'a pas besoin de chercher à voir.
Il n'y a pas besoin de ça pour apaiser les regards. Moi, je fais l'éloge de la timidité des hommes. Et par conséquent, la figure de l'homme dominant qui objective le corps de la femme est une figure qui malheureusement a longtemps existé, qui malheureusement existe encore
aujourd'hui,
contre laquelle nous sommes tous et toutes d'accord pour dire qu'il faut combattre. Mais le combat contre ce regard objectivant, le combat contre la domination, pour moi, peut passer par tout autre biais que... La mise à nu, mais que chacun fasse ce qu'il veut. Par exemple, cette timidité des hommes, je trouve qu'elle est bien dite. Tenez, on est en train de dire au revoir à Jane Birkin par Gainsbourg dans certaines chansons qu'il a fait chanter par Jane.
Vous voyez que la jeune génération s'esclave, Éric Fiat.
Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement. Où je
oui,
sens.
Mais Gainsbourg, c'est aussi Limone et Inceste, avec Charlotte Gainsbourg aussi, c'est aussi un...
Ça, c'est Gainsbourg plutôt que Gainsbourg.
Oui.
Notre débat ne porte pas là-dessus.
Bien
sûr. Il y a dans certaines chansons de Gainsbourg un infini respect de la féminité et un aveu de la fragilité masculine. Bon,
alors, cette fragilité dont vous parlez,
j'ai l'impression
que c'est une fragilité qui est utilisée toujours pour le plaisir masculin. C'est-à-dire que là, comment vous exprimez tout ça, c'est très intéressant, mais on voit quand même que dans une relation hétérosexuelle homme-femme, cette timidité, ce pouvoir cacher sans trop en dévoiler sont les choses dont les femmes aimeraient se libérer aussi, parce que on a l'impression finalement que c'est le fait qu'on s'affirme, qu'on se libère qui va pousser en fait contre le mur de dire ben voilà, je suis nue, je suis fière, j'assume ma sexualité. Qu'est-ce que tu peux bien me dire? Alors que là, dans votre discours où je retrouve cacher, ce désir, se donner, s'en donner, c'est un petit peu la punition des femmes de toujours être dans des relations, mais sans trop se donner. Cette sexualité, mais sans trop en faire. Cet amour, sans trop en faire.
Non,
en fait, j'ai vraiment
ça,
l'impression que c'est tu vois, mais tu vois pas. Et c'est un peu...
Je parlais de la fragilité des hommes, pas des femmes. C'est de cette fragilité que je faisais l'éloge. Pour dire que la parité homme-femme, elle peut se trouver... en dehors, ailleurs que sur le camp naturiste.
Oui.
Et je ne crois pas que le but, ce soit forcément le plaisir des hommes. Casanova, mon plaisir fut toujours composé au 4/5 de celui que je donnais. Donc moi, je suis pour la parité et que surtout, chacun invente la joie d'affirmer un désir violent, la joie de le cacher. Liberté totale pour ces choses-là.
Margot Casson.
Je trouve ça intéressant que le thème étant la nudité, vous mettiez beaucoup en avant la question du désir, parce que de la même façon, tout à l'heure, vous disiez oui, la nudité, c'est bien, mais pas tout le temps, pas devant tout le monde. Bah, pour moi, en fait, c'est exactement la même chose avec le désir. Ce qui est génial dans les villages naturistes, c'est pas un monde sans désir, c'est justement un monde où, pour une fois, le désir n'est pas omniprésent, il sature pas l'espace. Dans les villages naturistes, il y a un lieu, il y a un temps pour le désir, c'est le soir, c'est le moment où on est habillé.
Et donc vous racontez que dans les villages naturistes, en fait, vous dites qu'il y a une différence entre voir et mater quand on est nu.
Oui, parce que l'étymologie du mot mater, c'est soumettre. Donc ça veut dire que d'un coup, vous regardez quelqu'un en lui faisant porter la charge de toutes vos projections. Et souvent, ces projections sont de l'ordre du désir, mais ça peut être autre chose. Mmh. Et quand vous regardez quelqu'un sans le mater, votre regard ne fait que passer. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Je pense que le drame des réseaux sociaux, c'est un drame d'éternité. C'est-à-dire que quand vous êtes nu sur une plage et que vous savez que bon, quelqu'un peut croiser votre regard, que peut-être vous allez être gêné, mais que ce regard il va durer 3-4 secondes, c'est pas du tout la même chose que si vous savez que votre corps va être pris en photo et que d'un coup, sur les réseaux sociaux, vous pouvez être vu face au monde entier et pendant très longtemps.
Amal Tahir, justement, vous qui publiez beaucoup des photos de votre corps sur Instagram, est-ce que vous retouchez certaines photos ou est-ce
que... Jamais. Oh mon Dieu, quelle horreur, jamais. Non, je pourrais jamais retoucher mon corps. Je trouve ça très violent pour soi-même de retoucher et je trouve ça très violent pour les autres. J'aime beaucoup les femmes qui me suivent et je pense que ce que je veux, c'est plutôt qu'elles se disent...
Les femmes et les hommes peut-être aussi.
J'ai beaucoup de femmes aussi, j'ai un 3% d'hommes, mais bon, j'ai beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que j'ai envie que ces femmes se disent plutôt, ouf, les vergetures, c'est pas si grave que ça, la cellulite, c'est pas si grave que ça, ton corps évolue, c'est tout, ton corps raconte l'histoire de ta vie aussi, donc il évolue avec toi. C'est plutôt ça que je veux dire, donc non, je retouche jamais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, légalement, les influenceurs, on doit signaler lorsqu'on retouche une photo. Donc ça, c'est très bien.
Oui, Sophie Fontanelle, justement, en tant que journaliste qui a beaucoup travaillé dans la mode, vous avez vu les marques changer. Par exemple, les marques de lingerie, aujourd'hui, proposent aussi des mannequins rondes et ne camouflent plus la cellulite, par exemple. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? C'est de la communication ou ça marche?
Bon, c'est évidemment de la communication, mais c'est vachement bien que ça existe, tant mieux. La mode suit la mode, comme son nom l'indique, et à un moment donné, elle se met dans le courant de la rivière et elle prend ce courant. Mais quel rapport ça a avec la nudité? C'est que dès que le corps, en fait, c'est très important, dès que le corps il est un tout petit peu habillé, on quitte complètement l'histoire du corps nu et on entre dans autre chose. Ce qu'on voit très peu, c'est des corps nus. Vous en voyez très peu dans la publicité. On en voyait à une époque, vous n'en voyez plus.
Plus du tout, c'est vrai. Et on va continuer à parler de ce corps nu dans la société, à se demander s'il n'y a pas certains âges de la vie où la pudeur s'impose, s'il faut lutter ou dépasser cette pudeur, gagner l'île du Lovant, Eric Fiat. Question à méditer avec la reine de la sensualité, Norah Jones, Can You Believe? This frozen piece of stone.
France Inter, le débat de midi. Paola Puerari.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter pour se demander pourquoi le fait d'être nu comme un ver nous met si mal à l'aise. Beaucoup, beaucoup de réactions d'auditeurs et nous vous remercions. D'abord Camille qui nous dit qu'elle faisait du topless à 20 ans mais qu'en vieillissant elle est moins insouciante. Nathalie aussi qui nous dit « Je suis quasiment née dans un des premiers camps naturistes et je peux témoigner du merveilleux. Le corps bizarrement disparaît, les regards se désérotisent. » Et nous avons reçu aussi un témoignage vocal d'un auditeur, Vincent, qui s'est enregistré sur l'application France Inter.
J'ai été éduqué dans un environnement extrêmement pudique, que ce soit en famille ou à l'école. Puis je suis allé travailler aux Pays-Bas. Là, j'ai découvert une totale différence. La nudité n'était absolument pas tabou, que ce soit au sauna, à la plage, etc. Et depuis, je n'ai plus aucun problème de pudeur.
Éric Fiat, alors est-ce que la pudeur, c'est aussi une histoire de culture ?
Oui, parce que la pudeur au Japon n'est pas la même que la pudeur en Italie. La pudeur de ma grand-mère n'est pas la mienne et ne sera sans doute pas celle de ma petite-fille. Il y a une histoire, une géographie de la pudeur. Cependant, il me semble qu'il n'existe pas d'être humain totalement impudique. La pudeur fait partie de l'humaine condition, précisément parce que l'homme ayant conscience de son corps ne peut jamais avoir un rapport totalement simple à son propre corps. Par conséquent, il y a une histoire de géographie de la pudeur. Alors moi, je fais l'éloge de la pudeur parce que la pudeur, c'est la juste mesure entre l'obscénité et la pruderie. C'est Aristote qui disait que la vertu est la juste mesure entre un vice par défaut, il n'y en a pas assez, et un vice par excès, il y en a trop. Par exemple, le courage, c'est la juste mesure entre le vice par défaut, la lâcheté, et le vice par excès, la témérité. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Aristote, c'est qu'il dit que le défaut et l'excès se rejoignent. Il y a une grande ressemblance entre le lâche et le téméraire parce que ce ne sont pas de bons soldats. Le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Qu'est-ce que c'est qu'un courageux ? C'est quelqu'un qui combat et fuit à la fois, parce qu'il y a des retraites qui ne sont pas des lâchetés, qui sont nécessaires pour la victoire finale. De même, la pudeur, c'est la juste mesure entre l'obscénité, c'est-à-dire le vice par défaut, manque de pudeur, et la pruderie, l'excès. Et il y a une ressemblance entre l'obscène et le prude, parce que ni l'obscène ni le prude ne sont désirables. L'obscène, c'est celui qui montre ce qu'il faudrait cacher. Le prude, c'est celui qui cache ce qu'il faudrait montrer. Qu'est-ce que c'est qu'un pudique ? C'est quelqu'un qui cache et montre à la fois. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très émouvant dans ce jeu sur le cacher et le montrer.
Ce clair-obscur, justement.
Ce clair-obscur. La pudeur, c'est la vertu du clair-obscur. Les êtres humains sont pas faits pour être complètement cachés, parce qu'on a besoin d'être vus par les autres. Ils sont pas faits pour être en pleine lumière, parce que sinon, on recherche quelque chose comme de l'ombre. Le clair-obscur est le vrai. J'ai une immense admiration pour les lampes halogènes, vous savez, pour les variateurs de lumière. Que chacun puisse tirer le curseur. Et si vous voulez être nu devant les autres, allez-y. Si je veux être caché devant les autres, que j'y aille.
Oui,
que
la chacun... liberté de chacun.
La liberté de chacun, c'est la liberté de choisir ce qu'il peut montrer ou cacher, selon les occasions.
Et d'ailleurs, Margot Cassan, vous racontez qu'il y a un moment dans les villages naturistes où on respecte la pudeur des autres, c'est au moment de l'adolescence, où là, pour le coup, on n'est pas obligé d'être nu. Racontez-nous.
Vous parliez tout à l'heure, Eric, d'anarchisme. Là où les naturistes ne sont pas anarchistes, c'est qu'il y a une charte avec des règles assez strictes qui régissent.
Je suis fort heureux.
Qui régissent la vie des camps.
C'est un moment problématique.
Et dans cette charte, la place de l'adolescence est assez importante parce qu'on considère que c'est un endroit où la nudité devient problématique. Et elle devient problématique précisément parce que, et là c'est normal, mais comme beaucoup d'adultes, c'est l'endroit de la confusion entre la nudité et le désir. D'un coup, votre corps n'est plus celui d'un enfant, il n'est pas non plus celui d'un adulte.
Et on ne le maîtrise pas totalement.
On ne le maîtrise pas, il change, c'est un peu les quatre saisons en un jour, vous avez des endroits qui poussent, d'autres non, et puis vous n'êtes pas un objet fini. Or, pour être à l'aise avec son corps, je pense qu'il faut le considérer comme un objet fini. Donc les naturistes autorisent aux adolescents de s'habiller pendant cette période de la vie. Mais la question des âges et de la nudité est très intéressante, parce que autant dans les réseaux sociaux, par exemple, et sur la publicité, les adolescents sont omniprésents. Par exemple, les personnes âgées, et la nudité des personnes âgées l'est beaucoup moins. C'est les invisibles par excellence qu'on veut invisibiliser parce qu'on est allergique aux peaux froissées, on n'aime pas ça. Et dans les villages naturistes, ils ont toute leur place.
Tout à fait. Amal Tahir, justement, vous, les adolescentes, c'est un problème pour elles, leur corps, de s'affirmer?
Oui, pour les adolescentes, mais les jeunes femmes aussi. Enfin, tant qu'on n'a pas eu cette émancipation du regard des autres, moi, j'y crois à cette émancipation du regard des autres. Je crois que après du travail sur soi, on arrive à se libérer de la vie des autres. Moi, je poste mes photos alors que mon corps va contre l'idéologie de la société. Oh mon Dieu, des seins qui tombent, des vergetures, je suis pas toujours la grosse acceptable, parce que la grosse acceptable, c'est que les grosses fesses ou les gros seins, mais le gros ventre, les gros bras, c'est pas dans la sphère de l'acceptation. Donc je crois à l'émancipation du regard des autres, et en effet, il y a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes avec son schéma corporel, sa confiance en soi, parce que il y a beaucoup de comparaisons, comme je l'expliquais sur les réseaux sociaux. On va se comparer, on va se demander si on est assez bien. Il y a toujours ce besoin d'aller plus loin et d'être toujours mieux chez les femmes, notamment, chez les garçons aussi. Mais il y a ce besoin d'être toujours mieux.
Sophie Fontanelle, vous l'avez ressenti, justement, ce diktat qui tombe quand on est nu, justement, cette acceptation de tous les corps?
Alors moi, je suis plutôt mince, mais j'ai 60 ans. Et il y a 2 ans, j'ai fait toute une série de photos pour Elle où j'étais nue, pour la sortie de Capitale de la Douceur. Et ça devait faire peut-être, enfin vraisemblablement, la couverture du journal. Et au dernier moment, le journal a hésité et puis a reculé. Et il y a eu la série avec les 12 photos à l'intérieur du journal. Ça a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Mais ils n'ont pas réussi à me mettre en couverture parce qu'ils avaient peur de montrer aux femmes ce corps qui n'a plus 20 ans. Et ça les effrayait. Ils avaient peur pour moi. Ils avaient peur qu'on me fasse des commentaires qui m'auraient blessée, voyez. Donc il y a quand même un gros, gros, gros tabou.
Bien sûr. Et Margot Cassandre, dans votre livre, vous citez justement Éric Fiat et vous dites que la pudeur aussi, c'est l'esprit rougissant du corps. Et d'ailleurs, vous rougissez beaucoup. Donc finalement, j'ai l'impression que vous êtes assez pudique aussi, quelque part.
Bah oui, justement, je pense que c'est à l'endroit du langage qu'on se révèle le plus. Donc c'est généralement à ce moment-là que mon esprit se met à rougir de mon corps, comme vous l'avez décrit.
Merci. Juste un petit mot sur l'âge et un petit mot sur l'émancipation. Il n'y a pas très longtemps que j'ai compris ce qu'était un flacon de whisky hors d'âge. Je croyais que c'était un whisky qui était tellement vieux qu'on ne pouvait pas lui donner d'âge. Et maintenant, je sais que dans un flacon de whisky hors d'âge, on mélange des whiskies de plusieurs âges, des jeunes et des vieux. Je crois que toute sa vie, on est hors d'âge. Je veux dire que je suis peut-être un adolescent, un vieil adolescent. En moi, il y a encore le petit garçon qui n'avait aucun problème à être tout nu. Il y a encore l'adolescent qui était très gêné. Il y a déjà le vieillard qui s'assumera comme un peu fripé. Et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas faire de l'agisme. La possibilité d'être gêné par le regard de l'autre, elle peut surgir à tous les âges.
Oui, bien sûr.
Et pour l'émancipation, un petit mot sur l'émancipation, c'est un très beau mot. Moi, je suis pour toutes les émancipations. Dans l'émancipation, il y a ex manu capere. Ex est en dehors. Manou, la main capérée. Émanciper, c'est lever la main qui prend. Parce que sur les marchés romains, il suffisait qu'un homme libre mît la main sur un esclave pour qu'il fût à lui. Manou capérée, c'est je fais main basse, je te prends, je te domine. L'émancipation, c'est lever les dominations. Je suis pour toutes les émancipations. Je ne crois pas qu'on puisse jamais s'émanciper de la petite peur que nous éprouvons quand quelqu'un nous regarde. C'est peut-être ça la petite différence qu'il y a entre nous.
Le mot de la fin, on lève le bras alors?
Oui, très intéressant ce que vous me partagez, mais je suis sûre qu'on peut se détacher du regard des autres, et je le souhaite vraiment à tout le monde parce que c'est incroyable.
Ça peut faire du bien le regard des autres aussi.
Bon, et bah
oui,
écoutez,
ça dépend comment, parce que finalement, on a déjà on se combat déjà contre nous-mêmes.
Bon, voilà. Écoutez, moi je vous regarde et je vous remercie en tout cas d'être venu débattre, de vous être mis à nu dans ce studio. Merci à Florence Gimala, Constance Villanova, Savannah Ruellan et Aloïs Nollet qui ont préparé cette émission. À la réalisation, Étienne Bertin. À la technique, Maxime Gouda. Et demain dans le débat de midi, on se pose une question. Peut-on vraiment combattre le complotisme? Alors si un de vos proches est tombé dans une pseudo-théorie, que vous ne savez pas comment le sortir de sa spirale, eh bien vous pouvez dès maintenant réagir sur l'application France Inter, vous enregistrez vos témoignages, vos questions, et on les diffusera demain dans l'émission. À suivre, le journal de 13h.